Donc, je suis très heureuse de donner la parole maintenant à Martin Rueff, qui est professeur de littérature française à l'Université de Genève. Il occupe la chaire qui était, il n'y a encore pas si longtemps, celle de Jean Starobinski. Spécialiste de littérature et de philosophie, traducteur et poète. C'est un spécialiste incontournable de Rousseau et de l'anthropologie morale des classiques. C'est aussi l'un des collaborateurs de l'édition de Lévi-Strauss, récemment parue en Pléiade, et de celle Avenir de Michel Foucault. Le traducteur en français de Carlo Ginzburg ou d'Agamben, mais aussi de Pavese et de Calvin ou de Zanzotto. L'animateur, l'âme, le co-directeur de la revue Poésie et un passeur très important de poésie européenne aujourd'hui. Il a notamment publié un livre essentiel sur Michel Deguy, Différence et identité, où il est question de distinguer entre les distinctions. Peut-être qu'on pourra en parler tout à l'heure. Chez Hermann en 2009. Et on lui a commandé, en fait, une réflexion sur le Proust de Lévi-Strauss, qu'il a donc intitulé « Une minute affranchie de l'ordre du temps a recréé en nous pour la sentir, l'homme affranchi de l'ordre du temps ». Énigme dont on espère vite sonder la teneur. Merci beaucoup d'être là, Martin.
À toi. Merci. Merci à toi, Marielle, et merci à Anne de m'avoir convié. En t'écoutant, je mesurais en effet combien ce que j'ai fait ne me prédispose absolument pas à être ici. Donc, je vais essayer d'honorer ta confiance, votre confiance. Au seuil du chapitre 2 de la 7e et dernière partie de L'Homme nu, le 4e volume de la Tétralogie des mythologiques, publié en 71, Lévi-Strauss place en épigraphe la phrase suivante du temps retrouvé. Alors cette phrase, il faut bien l'entendre parce que une minute affranchie de l'ordre du temps a recréé en nous, pour la sentir, l'homme affranchi de l'ordre du temps. Cette phrase au fort parfum d'énigme, mais qui, comme tous les parfums d'énigme, a un pouvoir de relance, est située dans l'avant-dernière section du temps retrouvé, en un lieu stratégique. Elle dit « le mystère de l'instant » qui émerge de la rencontre des deux temporalités, elle dit sa force, avant que le narrateur ne se convainque, lors du bal des têtes, de se convertir à la littérature pour faire durer cet instant qui, sans elle, resterait à l'état de trompe-l'œil. Cette section du temps retrouvé n'est pas la dernière, mais la pénultième, et elle occupe, dans le temps retrouvé, une place analogue au chapitre « Le mythe unique » situé dans le dernier volume des mythologiques, avant le grand final, qui contient une page importante sur Proust. Avant de nous livrer à une exégèse de la formule de Proust, pour tenter d'éclairer un peu ce que le romancier apprend à l'anthropologue, et par là même, c'est du moins le pari, ce que le romancier nous apprend de l'anthropologue, ne faut-il pas faire état d'une surprise qui serait susceptible de décourager l'investigation ? La petite phrase de Proust relie dans la syntaxe de son mystère une illumination sur le temps subjectif de l'œuvre d'art, sur la temporalité intime de l'œuvre. Elle révèle, comment l'art est susceptible d'offrir au sujet une sorte de poche de temps créée à la bordure de plusieurs temporalités dans laquelle, s'extrayant du temps, le sujet goûterait à l'instant pur. L'art créerait tout uniment le temps pur et l'homme nu, pour ainsi dire, susceptible de le goûter. Quel que soit le sens qu'on voudra bien donner à cette formule, j'y reviendrai, on peut indiquer grossièrement son site et sa portée. Le sens de cette formule, c'est la relève du temps empirique de la destruction par l'œuvre d'art qui offre au sujet une réconciliation dans l'instant pur. Or, il apparaît clairement que la tentative monumentale des mythologiques vise tout entière à défaire les prestiges du jeu, à déloger le sens de la subjectivité constituante, à inventer une réflexion sur la donation de sens qui dépasserait toute phénoménologie de la conscience, toute leçon sur la conscience intime du temps. On doit rappeler l'insistance avec laquelle Lévi-Strauss lui-même a voulu reprendre la formule tentée par Ricoeur à son propos, Ricoeur parlant dans un numéro célèbre de la Revue d'Esprit, hein, d'un kantisme sans sujet transcendantal. Je cite le Cru et le Cuit, hein, qui est le début des mythologiques. Nous nous reconnaissons parfaitement dans cet aspect indiqué sous la plume de M. Ricoeur lorsqu'il qualifie avec raison de kantisme sans sujet transcendantal. Mais loin que la restriction nous semble signaler une lacune, nous y voyons la conséquence inévitable sur le plan philosophique du choix que nous avons fait de notre perspective ethnographique, puisque nous étant mis à la recherche des conditions auxquelles des systèmes de vérité deviennent mutuellement convertibles et peuvent donc être simultanément recevables pour plusieurs sujets, l'ensemble de ces conditions, acquiert le caractère d'objet doté d'une réalité propre et indépendante de tout sujet. Il s'agissait donc, dès le premier volet des mythologiques, de plaider pour un ordre du sens qui ne soit pas l'ordre du sujet du sens. Quant au final de l'homme nu, il contient, j'y reviendrai, une déclaration de guerre explicite contre le sujet de la philosophie, définie comme la source de sens coïncidant avec elle-même dans un rapport d'évidence au contenu de pensée. Lévi-Strauss n'a pas de mots assez durs contre le sujet, je cite la formule de Lévi-Strauss, « cet insupportable enfant gâté qui a trop longtemps occupé la scène philosophique et empêchant tout travail sérieux en réclamant une attention exclusive et contre tous ces philosophes pour qui le moi compte davantage que le Dieu. » On retrouve ici le ton polémique employé contre Sartre dans La pensée sauvage et qui avait donné lieu à une formule trop fameuse où l'on avait voulu, à tort, me semble-t-il, conjoindre Lévi-Strauss, Barthes et Foucault dans un effet d'après-coup quand Lévi-Strauss écrivait « Le but dernier n'est pas de constituer l'homme, mais de le dissoudre. » La thèse de Lévi-Strauss est moins une thèse sur l'humanisme qu'une thèse sur le sens. L'analyse des mythes doit se produire de façon purement immanente au mythe en suivant la transformation, les systèmes de transformation, comme il dit, des mythes qui se pensent entre eux et non pas depuis le point focal, le point source d'un sujet qui en détiendrait le sens. Mieux, quand Lévi-Strauss prend du recul pour évoquer cette subjectivité, c'est pour ramener le sujet, je le cite, à ce que dans une telle entreprise, il devait essayer d'être, pour autant qu'il ne le soit pas toujours et partout, le lieu insubstantiel offert à la pensée anonyme. C'est ça hein, pour Lévi-Strauss. Afin qu'elle s'y déploie, dit-il, qu'il prenne ses distances vis-à-vis d'elle-même, etc. On comprend alors que ce texte est une des nombreuses versions par lesquelles Lévi-Strauss essaie de commenter ses propres mythes, d'ajouter, comme il le fait, des étranges épigraphes ouvrant chaque chapitre pour dire justement au fil continu des transformations des mythes cet espace où le mythe fait sens sans sujet. On saisit mieux peut-être la portée des mythologiques. Les mythes ont beau apparaître comme des récits absurdes, comme une logique secrète qui règle les rapports de toutes ces absurdités, témoignant par là de la régularité d'une pensée objective. En tout cas, si pensée mythique il y a, si pensée sauvage il y a, c'est une pensée sans sujet. Et on comprend mieux alors les critiques que Lévi-Strauss ne cesse d'adresser à Freud ou à Panofsky. Une analyse structurale ne se soucie pas d'interpréter ou de remonter à quelque origine. Elle s'emploie à reconnaître les règles selon lesquelles un mythe est traductible dans un autre. Alors on comprend l'enjeu de cette citation de Proust et la difficulté qu'elle pose. Car chez Proust, la donation de sens est précisément dans ce texte-là et confiée à la capacité du sujet de collecter la totalité de ses vécus dans une version radicalisée du sujet transcendantal. À la note fameuse du paragraphe 16 de la critique de la raison pure, hein, « Un jeu doit nécessairement accompagner toutes mes représentations », Proust a donné une extension infinie. « Ce jeu doit accompagner toutes mes représentations », chez Proust, « passées et présentes, conscientes et inconscientes, et les prérogatives de la subjectivité transcendantale n'ont jamais été poussées aussi loin, au point qu'on peut se demander si Proust, je le dis sous couvert de Robert, ne réalise pas dans son roman ce programme kantien de la philosophie qui vient, appelé de ses voeux par Benjamin dans un texte rédigé en 1917, année qui n'est pas indifférente pour les Proustiens. Proust aura poussé plus loin, ce qu'un jeu peut dire de lui-même dans l'expérience du langage et aura vu dans l'œuvre d'art littéraire le lieu de donation suprême de cette expérience. Avec Proust, la donation du sens relève de la seule possibilité conférée au jeu transcendantal de faire œuvre. Alors on peut, avec Alain Delattre, parler d'analogie profonde entre Proust et Kant, ou retracer, comme l'a fait Luc Fraisse dans sa somme, le kantisme de Proust et ses origines chez son professeur Darlu. L'essentiel pour moi n'est pas là ici. Hein. Ce qui est clair, c'est qu'avec Lévi-Strauss, la donation du sens relève des objectivités conférées aux institutions symboliques avant que les sujets ne s'en emparent, alors que chez Proust, le sens n'est qu'à la condition d'un jeu. Le sens n'est qu'à la condition de la dissolution du jeu. Constitution subjective chez l'un, dissolution subjective chez l'autre. Le littéraire sera attentif, au reste, à une transaction pronominale éminente. Reprenons une nouvelle fois, et toujours pour l'instant de l'extérieur, la phrase de Proust. Une minute affranchie de l'ordre du temps a recréé en nous, pour la sentir, l'homme affranchi de l'ordre du temps. Ce qu'opère l'œuvre d'art, et pour l'instant, l'instant qui résulte de la confrontation des deux époques, c'est bien la création dans le nous d'un sujet transcendantal affranchi des limites du temps. Parce que parmi tous les étonnements que suscite cette phrase, il y a aussi l'apparition de l'homme. C'est qui cet homme? Qu'est-ce qu'il a à voir là, l'homme? En nous, pour la sentir, l'homme affranchi de l'ordre du temps. Donc en fait, ce nous fait apparaître l'homme, c'est-à-dire que ce nous, c'est le nous d'un commun subsumé sous le transcendantal et condition de son apparition. Or, chez Lévi-Strauss, et dans un paragraphe qui précède de très peu les pages consacrées à Proust que je vais commenter dans un instant, Lévi-Strauss commente l'emploi du nous dans son œuvre. Et voilà ce qu'il dit. Au long de ces pages, le nous dont l'auteur n'a pas voulu se départir n'est pas seulement de modestie, il traduisait aussi le souci plus profond de ramener le sujet à ce que dans telle entreprise, il devait essayer d'être, pour autant qu'il ne soit pas toujours et partout, un lieu insubstantiel. En d'autres termes, chez Lévi-Strauss, le nous ne dit pas la communauté qui fait surgir un transcendantal, mais le nous dit l'impossible transcendantal, sa défaite. On aura compris que le surgissement de la formule de Proust au terme de l'entreprise des mythologiques vaut comme un indice entre deux entreprises fondamentales que tout sépare aux extrémités du siècle. Le plus grand roman kantien jamais entrepris, la plus grande entreprise de dissolution du sujet kantien jamais entreprise. S'agira-t-il alors, dans ces minutes qu'on va passer ensemble à essayer de comprendre cette phrase, de rapprocher autour de Kant, Bergson et Lévi-Strauss? Bien sûr que non. Ce que je vais me demander dans l'enquête qui suit, c'est si cette formule, dans son étrangeté même, ne dit pas davantage qu'un rapport d'exclusion, et si elle ne vaut pas comme indice d'une continuité qui ne relèverait pas seulement un côté proustien de Lévi-Strauss, côté proustien de Lévi-Strauss qui peut être assez explicable par la biographie, hein, c'est ce qu'il disait quand il était petit, hein, parce qu'il y a un effet de chronologie qui fait que Lévi-Strauss, c'est un peu le Fontenelle du XXe siècle, hein, il est contemporain de Proust, et il survit à Foucault. Donc ça fait... Ça laisse entendre ce que c'est que la contemporanéité. Et d'ailleurs, ainsi, parenthèse, par rapport à ce que disait Anne tout à l'heure, Proust est si peu présent chez Foucault, c'est que pour Foucault, Proust est un auteur hyper-kantien, c'est-à-dire que c'est un auteur de la subjectivité transcendantale. Hein. Donc c'est pour ça qu'il fait un Roussel pour ne pas faire un Proust, c'est clair. Donc, un côté lévi-straussien de Proust, pour être attentif à cette leçon de méthode de Proust, qui nous a pris à déceler un côté Dostoïevski chez Madame de Sévigné. Car à deux reprises, une première fois dans le final de L'Homme nu en 1971, et une autre fois dans L'Incipit de Regarder, écouter, lire en 1993, Lévi-Strauss accorde à Proust le privilège d'être un devancier. Et à chaque fois, pour reconnaître en lui la prééminence du théoricien et du praticien de l'esthétique, et à chaque fois, en faisant appel au même topos proustien, la petite phrase de Vinteuil. Dans le final de l'homme nu, c'est pour défendre le privilège de l'écouteur dans l'analyse musicale, c'est-à-dire c'est pour défendre le privilège de l'écouteur contre le structuralisme en musique. Donc Proust apparaît une première fois dans le final de l'homme nu comme quelqu'un qui défend l'écoute contre la structure. Et dans Regarder, écouter, lire, c'est pour défendre une méthode de composition. Dans le final de l'homme nu, Proust est sollicité pour défendre le sujet contre la structure. Ça peut paraître étonnant, mais c'est comme ça. Dans Regarder, écouter, lire, Proust est sollicité comme un des grands devanciers du structuralisme, théorie et pratique mêlées. Dans un cas, Proust illustre la nécessité d'en passer par le sujet pour faire fonctionner le temps de la structure. Dans l'autre, Regarder, écouter, lire, Proust enseigne la manière dont la composition artistique fait justement émerger l'exifness, hein, l'instant, par le rapprochement bord à bord des papiers collés. Dans un cas, le temps de l'œuvre est celui de la durée intime et du continu, porté par la double structure de la musique, c'est ce que dit Proust. Dans l'autre cas, le temps de l'œuvre est l'arrachement à cette même continuité, porté à nouveau par la double structure du langage. Donc ce qui est très étonnant, si vous voulez, c'est que dans les deux grands topoi proustiens chez Lévi-Strauss, c'est-à-dire à la fois dans le final de l'homme nu et dans Regarder, écouter, lire, Proust est mobilisé pour un motif, la sonate de Vinteuil, par une explication de ce motif, c'est que Proust invente la double structure, mais dans un cas, c'est pour défendre le sujet contre la structure, alors que dans l'autre, c'est exactement l'inverse, c'est pour dire justement, grâce à Proust, hein, on arrive à penser des processus de composition qui ne sont plus des processus subjectifs. Donc dans un cas comme dans l'autre, Proust est un allié dans la définition de la situation très particulière du structuralisme de Lévi-Strauss, un alliage neuf entre l'intelligible et le sensible. Dans un cas, un Proust bergsonien est convié à lutter contre le structuralisme en musique, celui de Boulez et de Boris de Schoelzer. Dans l'autre, un Proust benjaminien est convié dans la théorie et la pratique d'une esthétique structuraliste qui doit un peu, en effet, à l'image dialectique, c'est-à-dire l'idée du bord à bord qui émergerait, hein, grâce à un moment particulier. Mais il est temps, avant d'expliquer ces deux lieux, de revenir à la petite phrase de Proust. Hein, tu m'arrêteras, Marielle, quand ça sera bon. Le narrateur, lors de son troisième retour à Paris, est invité à une matinée chez le prince de Guermantes, et après avoir croisé Charlus en compagnie de Julien, après avoir traversé la cour de l'hôtel et trébuché sur les pavés et éprouvé le bonheur de retrouver un souvenir de Venise, se retrouve dans la bibliothèque du prince à attendre et découvre le souvenir d'autres sensations, accompagné d'une joie sans mélange. Le bruit d'une cuillère contre une assiette évoque celui d'un marteau contre une roue de train, une serviette évoque Balbec, vous connaissez tout ça. Le narrateur essaie de comprendre ce moment d'exaltation provoqué par ses souvenirs. Il évoque ces instants que nous connaissons toutes et tous et les traduit dans une espèce de vitalisme. Il dit, hein, « J'avais un tel appétit de vivre maintenant que venait, hein, la formule sera importante par rapport à celle que je vais étudier, de renaître en moi, à trois reprises, un véritable moment du passé. » C'est alors donc, contexte plus ces trois, que se situe notre texte. Rien qu'un moment, donc je le lis, hein, rien qu'un moment du passé, beaucoup plus peut-être. Quelque chose qui est commun à la fois au présent et au passé est beaucoup plus essentiel que deux. Tant de fois au cours de ma vie, la réalité m'avait déçu parce que, au moment où je l'apercevais, mon imagination, qui était mon seul organe pour jouir de la beauté, ne pouvait s'appliquer à elle en vertu de la loi inévitable qui veut qu'on ne puisse imaginer que ce qui est absent. Et voici que soudain, l'effet de cette dure loi s'était trouvé neutralisé, suspendu par un expédient merveilleux de la nature qui avait fait miroiter une sensation, bruit de la fourchette et du marteau, même inégalité de pavé. À la fois dans le passé, ce qui permettait à mon imagination de la goûter, et dans le présent, où l'ébranlement effectif de mes sens par le bruit, le contact, avait ajouté au rêve de l'imagination ce dont ils sont habituellement dépourvus, l'idée d'existence, et grâce à ce subterfuge, avait permis à mon être d'obtenir, d'isoler, d'immobiliser la durée d'un éclair, ce qu'il n'appréhende jamais, un peu de temps, à l'état pur. L'être qui était rené en moi, quand avec un tel frémissement de bonheur, j'avais entendu le bruit commun à la fois à la cuillère qui touche l'assiette et au marteau qui frappe sur la roue, à l'inégalité pour les pas des pavés de la cour de Guermantes et du baptistère de Saint-Marc, cet être-là ne se nourrit que de l'essence des choses, en elle seulement, il trouve sa subsistance, ses délices. Il languit dans l'observation du présent où les sens ne peuvent la lui apporter, dans la considération d'un passé que l'intelligence lui dessèche, dans l'attente d'un avenir que la volonté construit avec des fragments du présent et du passé, auxquels elle retire encore de leur réalité, ne conservant d'eux que ce qui convient à la fin utilitaire, étroitement humaine, qu'elle leur assigne. Mais qu'un bruit, qu'une odeur déjà entendue et respirée jadis le soit de nouveau à la fois dans le présent et le passé, réel sans être actuel, idéaux sans être abstrait, aussitôt l'essence permanente et habituellement cachée des choses se trouve libérée, et notre vrai moi qui parfois depuis longtemps semblait mort, mais n'était pas troublant, s'éveille, s'anime en recevant la céleste nourriture qui lui est apportée, une minute, affranchie de l'ordre du temps, recrée en nous, pour la sentir, l'homme affranchi de l'ordre du temps. On tira aisément quelques leçons de cette admirable page pour essayer d'en mesurer l'écho chez Lévi-Strauss. D'abord, la confrontation des deux époques, du passé et du présent, n'a certes pas pour seul effet de faire ressurgir le passé dans le présent, hein, comme dans des cas précédents de mémoire affective, les confessions ou les mémoires de Chateaubriand, mais de faire jaillir, comme deux pierres frottées l'une contre l'autre feraient jaillir une étincelle, quelque chose comme un troisième temps ou comme une troisième instance qui serait hors du temps, qui serait un peu comme l'Aïon des Grecs, hein, la comparaison a déjà été esquissée, du temps pur ou plutôt l'état pur du temps, hein, ce qui laisse entendre, hein, que l'état pur du temps n'est plus du temps. Pour parler dans un lexique qui sera celui de la première phénoménologie de Heidegger, une pure présence, hein, soustraite au passage, hein, hors du temps. On mesure bien sûr l'effet pathique, hein, sentimental de cette expérience, parce que tandis que le report du passé dans le présent pourrait, c'est le cas chez Chateaubriand ou chez Rousseau, plonger le présent du sujet dans une nostalgie qui lui ferait sentir toute sa finitude, ici, l'expérience du temps est vécue, hein, la formule revient au moins trois fois, comme une renaissance. Mais moins comme une renaissance du moi empirique, bien sûr, ce qui serait absolument impossible, qu'une renaissance d'un autre moi, hors temps, pour lequel la mort n'aurait plus aucune signification. Pourquoi il n'est pas du tout exagéré d'employer le terme de résurrection, hein. Deuxième remarque, cet instant qui ne se tient nulle part, dans le temps, qui est hors temps donc, est évoqué dans le plus pur lexique de la philosophie idéaliste de l'époque de Proust. D'ailleurs, hein, vous l'avez noté, le terme « essence » est répété à plusieurs reprises. Proust évoque carrément la dimension céleste de cette nourriture. On est proche à la fois des pensées platoniciennes ou stoïciennes de la temporalité, de l'intuitionnisme bergsonien, hein, et notamment de la version que Bergson donne dans des cours dont j'ai appris par Luc Fraisse que Proust les avait suivis, hein, disons du plotinisme de Bergson, hein, la notion d'une espèce de, là aussi, d'épécaïnate et soucias. Bon, évidemment, pour un lecteur de Platon, ça rappelle surtout un lexeifnes platonicien du Parménide, hein, c'est-à-dire un instant qui, justement, hein, n'est plus la jonction de deux instants, mais qui serait à l'extérieur. Cet écart des temps, résolu dans un instant hors du temps, est explicité par Proust ici, par le truchement d'une comparaison picturale. Cette comparaison est heuristique, tout comme la superposition des deux niveaux de la perspective dans un tableau peut faire surgir, pardon, un réel en trompe-l'œil, de même la superposition de deux couches de temporalité dans la conscience peut faire surgir un réel hors temps. Mais dans un cas comme dans l'autre, c'est très sensible, hein, c'est la dimension déceptive de cette comparaison, il y a une manière de tromperie, car de même que le trompe-l'œil est d'autant plus réaliste qu'il feinte le spectateur, de même la conscience ne croit sortir du temps et de sa finitude qu'en y replongeant. C'est pourquoi la seule vraie vie sera la littérature qui offrira une réalité, c'est-à-dire une durée, et surtout une répétabilité à l'ex-Aïfnes et ne se contentera pas de la laisser s'enfuir à nouveau comme un leurre. On peut désormais analyser précisément la phrase en faisant quelques remarques d'ordre philologique. Je la répète, au moins vous vous souviendrez de la phrase, sinon de l'exposé. Une minute affranchie de l'ordre du temps a recréé en nous, pour la sentir, l'homme affranchi de l'ordre du temps. Ce qui trouble dans la compréhension de cette phrase, c'est à la fois son sujet, la minute, sa structure pronominale, le rappel anaphorique de la, et sa circularité. Une minute affranchie de l'ordre du temps. On peut dire qu'il y a là un étrange effet de syllepse, car cette minute est plutôt un résultat qu'un point de départ dans le raisonnement de Proust, puisque c'est bien le résultat, le produit de la confrontation des deux temporalités. Elle n'est donc, pour ainsi dire, que par métonymie le sujet de cette phrase. Or, cette minute qui est affranchie de l'ordre du temps fait surgir un homme qui est lui-même affranchi de l'ordre du temps et qui, par là même, sera le seul capable de la sentir. On a donc bien affaire à ce que une analyse logique simple appellerait un système de causalité circulaire, A cause B, qui est la cause de la possibilité de A. Mais cette circularité, qui est renforcée par la répétition du syntagme affranchi de l'ordre du temps, ne doit pas tromper. Si circularité elle y a, elle ne relie pas exactement deux arguments de même niveau. La minute affranchie de l'ordre du temps ne crée pas purement un homme affranchi de l'ordre du temps. D'abord, Proust écrit, elle le recrée. Elle ne le crée pas, elle le recrée. Cette recréation est mystérieuse, car à quel moment, l'homme fut-il jamais affranchi de l'ordre du temps, c'est-à-dire avant de vivre cet instant? Certainement pas de son vivant. Et on est bien obligé de situer l'anamnèse proustienne dans la lignée des grands penseurs platoniciens d'un souvenir d'avant les souvenirs. Sinon, il aurait dit « créer », pas « recréer ». Enfin, c'est difficile, donc je fais des hypothèses, j'essaie de comprendre ce qui se passe. Il faut donc supposer qu'un homme jadis affranchi de l'ordre du temps, un peu comme dans le Ménon, si vous voulez, est recréé par la minute affranchi de l'ordre du temps. Mais il y a plus. Cette minute est créée par la minute... Cet homme, pardon, est créé par la minute pour qu'elle soit sentie. Donc c'est un peu, si vous voulez, comme dans les arguments de l'ancienne cosmologie chrétienne, c'est-à-dire que comme Dieu crée l'homme pour pouvoir constater le miracle de la création, là c'est la minute qui crée l'homme pour qu'elle puisse justement sentir ce que sans elle, sans lui, il ne pourrait pas être. Donc Proust soutient que l'instant est statique, n'aurait aucune réalité perceptuelle sans le sujet de la perception, c'est-à-dire sans le sujet de la sensation. Cette minute est donc comme une œuvre, et par exemple la recherche, qui créerait son lecteur pour pouvoir être sentie, perçue, comprise. Il faut donc faire état de la circularité de la phrase, parfaitement portée par sa syntaxe, l'anaphorique là, une minute affranchie de l'heure du temps, recréer en nous pour la sentir, qui renvoie à la minute, fait obstacle, et de manière très habile, à une compréhension immédiate, parce qu'on se demande, comme souvent dans les phrases de Proust, à quoi renvoie l'anaphorique, d'abord parce qu'elle est antéposée, ensuite parce qu'elle est portée par une corréférence entre sujet et objet direct, A a créé A pour que B sente A. C'est ça la formule logique de la phrase. Bon, j'ai déjà souligné la portée de ce pronom « nous », qui est, lui aussi, me semble-t-il, assez énigmatique dans ce texte. Par cette phrase admirable, donc, Proust conjoint une expérience du temps et de la subjectivité qui fixe, dans la fin du temps retrouvé, à l'art son destin le plus haut, faire durer ces instants hors du temps à travers des œuvres langagières. Alors, cette formule commande un chapitre plus loin, dans les mythologiques, l'apparition... Il me reste combien de temps? 5 minutes.
7 minutes. Minutes.
Bon, c'est très largement assez pour lire tout ce volume.
Voilà.
Très largement assez. Donc, cette citation... je vais me libérer de mes notes, alors. Cette citation commande dans les mythologiques une espèce d'apparition de Proust en un lieu extrêmement inattendu, Puisque, comme je vous le disais, c'est le lieu sur lequel, lors duquel, Lévi-Strauss va, oui, on peut dire, hein, batailler contre le structuralisme en musique. Alors, je ne reviens pas sur la fonction d'analyse de la structure musicale comparée à la structure mathématique, à la structure mythique et à la structure langagière dans le final de l'Omnus, c'est son objet. Mais voilà ce que dit Lévi-Strauss. On est donc page 586 de l'Omnus. Jamais sans doute le plaisir musical ne fut mieux décrit et analysé que dans les pages d'un amour de Swann consacré à la petite phrase et à la sonate de Vinteuil, où Proust montre la musique envahissant l'âme de l'auditeur, l'occupant tout entière, prenant en charge le cours de ses idées pour un temps plié à ses méandres. Alors là, il y a une comparaison qui aujourd'hui évoque un souvenir plutôt triste. Hein. Comme le pilotage automatique d'un avion substitue ses décisions à celles du commandant de bord et lui rend le contrôle de l'aéronef en même temps que la conscience réfléchit à elle-même quand s'achève le voyage pendant toute la durée duquel une sagesse supérieure à la sienne avait délivré celle-ci de la dure nécessité de penser. Pourtant, Proust ne cherche pas à percer les raisons mystérieuses qui font qu'une ligne mélodique ou une combinaison harmonique procure des voluptés qualifiées seulement par lui de particulières, suscite un bonheur, un état de bonheur noble et précis, mais qui, dit-il, aussi demeure inintelligible. Et donc, l'objet de ces 5-6 pages du final de l'Omnus, hein, de 586 à 590, va être de donner raison à Proust dans le débat contre le structuralisme, qui va dire que, en fait, on ne peut pas, comme le font Boulez et Schlotzer, essayer de faire une analyse de la musique qui ne tiendrait pas compte du sujet de l'écoute, parce que c'est dans le sujet de l'écoute que, disons, l'analyse structurelle, si vous voulez, hein, l'analyse intelligible du musical devient sensible. Et pourquoi il devient sensible? C'est ce que Proust explique, parce que précisément, c'est du côté de l'écouteur que la musique, dans son déroulement syntagmatique, parvient à faire exister des instants purs. Et donc, en réalité, la petite cellule de la phrase complexe de Proust qui est mise au début du chapitre précédent celui-ci, hein, annonce ce développement sur le rapport entre musicalité, si vous voulez, et affranchissement du temps. Mais il y a plus, parce que ce texte, Lévi-Strauss le reprend en 93, donc pratiquement 25 ans après, hein, au début de « Regarder, écouter, lire », lorsqu'il fait, c'est le dernier ouvrage que Lévi-Strauss a publié, hein, c'est celui dont j'avais assuré l'édition dans la Pléiade, la première phrase de « Regarder, écouter, lire » en 93, c'est la suivante. Proust compose la sonate de Vinteuil et sa petite phrase à partir d'impressions ressenties en écoutant Schubert, Wagner, Franck, Saint-Saëns, Fauré. Quand il décrit la peinture d'Elstir, on ne sait jamais s'il pense plutôt à Manet, à Monet ou bien à Patinir. Même incertitude sur l'idée des écrivains rassemblée dans le personnage de Bergotte. Qu'est-ce que dit Lévi-Strauss? Pour l'instant, hein, il règle une question de composition proustienne en disant, ben voilà, en fait, Proust, hein, il fait un peu comme Zeuxis quand il fait son Hélène, hein, il rassemble des morceaux, hein, il colle des papiers ensemble, et il crée une unité à partir du divers ou du multiple. Mais si c'était que ça, ça n'aurait pas éveillé mon intérêt par rapport à la citation initiale que j'ai faite. Voilà ce que dit Lévi-Strauss dans le paragraphe suivant. Ce syncrétisme étranger au temps, va de pair avec un autre, qui convoque et confond dans le moment présent des événements ou incidents de dates différentes. Donc, qu'est-ce que dit Lévi-Strauss de l'art de la composition de Proust? C'est que l'art de la composition par papier collé, et il va citer une phrase, c'est très étonnant, parce qu'il fait de Jean-Louis Curtis un grand proustien. Hein, bon, enfin, ça, il avait aussi des lectures d'un homme de son âge. Hein, il va faire de cette règle de composition proustienne, d'abord, la règle de composition de regarder, écouter, lire, puisqu'il finira ce chapitre en disant « Cette technique de montage fait de l'œuvre le résultat d'une double articulation ». Je détourne l'expression de son emploi linguistique. L'extension me semble pourtant légitime en ceci que les unités du premier ordre sont déjà des œuvres littéraires, donc les morceaux sur lesquels Proust travaille, combinés, agencés pour produire une œuvre littéraire d'un rang plus élevé. Et donc il dit, hein, je vais faire dans Regarder, Écouter, Lire, exactement comme Proust fait dans Le Temps Retrouvé, c'est-à-dire je vais travailler par collage. Mais ce n'est pas simplement une règle de composition, et qui d'ailleurs, rétrospectivement, j'eusse aimé vous le montrer, vaut aussi pour l'homme nu. Cette règle de composition, c'est une leçon de temporalité. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est par cette règle de composition que Proust est capable de faire émerger des instants qui échappent au temps collé par la composition. Donc il me semble, si vous voulez, que la leçon proustienne qui est retenue en épigraphe de l'homme nu, hein, dans un texte que j'ai essayé d'analyser, hein, en réalité a de très fortes résonances dans l'œuvre de Lévi-Strauss. On ne peut pas en faire simplement une espèce de trace de la culture littéraire de Lévi-Strauss, qui a été un grand lecteur de Proust, mais aussi évidemment de Montaigne et de Rousseau. On sait bien, on connaît bien la bibliothèque de Lévi-Strauss. Non, je crois que ce que Lévi-Strauss pointe chez Proust, pour sa propre gouverne, pour la propre pensée de son œuvre, c'est une esthétique tout à fait particulière, qui est à la fois une esthétique de la composition. Donc Lévi-Strauss est beaucoup plus sensible que d'autres lecteurs, me semble-t-il, à l'aspect discontinu de l'entreprise proustienne, à son côté, disons, papier-collé, disons, au côté Max Ernst, puisqu'il dit, voilà, en peinture, c'est comme Max Ernst, au côté Max Ernst, qu'il retrouve chez Poussin, mais aussi chez Duchamp, le côté, justement, superposition des plans. Et que cette règle de composition, elle dit quelque chose de l'effet esthétique produit et de son rapport à la temporalité. Et ce rapport à la temporalité, c'est que l'instant pur, il surgit du discontinu. De cette manière, Lévi-Strauss, dont on a trop dit qu'il était, pour utiliser une formule de Jaurès, anticipateur en épistémologie et retardataire en esthétique, me semble au contraire mettre en avant un côté très anticipateur de Proust, c'est-à-dire une lecture justement qu'on pourrait appeler benjaminienne, c'est-à-dire qui fait de ces instants l'équivalent d'images dialectiques, c'est-à-dire de véritables moments d'explosion dans la temporalité. Voilà, je vous remercie.
Merci Martin. On se donne malgré tout quelques minutes de questions. Je suis frappée que la leçon de temporalité, c'est peut-être la leçon la plus difficile à tirer de Proust pour les sciences sociales.
Oui, ça c'est sûr.
Et là, c'est très frappant de voir aussi la complexité qu'il faut mobiliser dans la compréhension même de l'œuvre de Lévi-Strauss pour voir qu'une leçon de temporalité est une réquisition pour penser ce qu'il en est du sujet, ce qu'il en est donc du sujet tel qu'on peut dire ça, tel qu'on peut prononcer cette phrase-là. Mais je trouve qu'effectivement, je le dis en anticipant déjà sur notre Bourdieu, la leçon de temporalité, c'est sans doute la plus difficile à entendre du point de vue d'une pensée du social. Ouais. Merci beaucoup. Hein. Moi, je m'étais, c'est une question idiote, mais je m'étais toujours interrogée sur... Voilà, Lévi-Strauss disait qu'il avait deux écrivains préférés, Proust et Céline, si je m'en souviens bien. Est-ce que là, pour le coup, on est dans une singularité biographique, un moment de la pensée du roman, ou est-ce que ça a quoi que ce soit?
Alors, la passion pour Céline, elle est plus datable que celle pour Proust, qui est continue. Passion pour Céline, on le sait grâce au Cahier de Lerne, puisque le premier texte que Lévi-Strauss ait jamais publié, c'est un texte sur Céline. C'est un petit compte-rendu du Voyage au bout de la nuit, qui est d'ailleurs tout à fait admirable, et qui touche en fait à beaucoup, Lévi-Strauss insiste beaucoup sur la question des colonies, justement. C'est ça qui l'a frappé, évidemment, la manière dont Céline décrit le Congo. Non, je crois que le rapport à Proust, il est beaucoup plus fort, beaucoup plus constant, et notamment, évidemment, c'est un point sur lequel j'aurais pu insister, il y a au moins trois autres points plus évident, mais il est bon de les rappeler aussi, qui frappe le lecteur de Lévi-Strauss. C'est d'abord la syntaxe. La syntaxe de Lévi-Strauss, c'est une syntaxe qui est très très proche de l'hypersyntaxe proustienne et aussi de l'hypersyntaxe de Chateaubriand. La question de la traduction, Hein, d'ailleurs, Marcel Hénaff, dans le cahier de Lerne sur Lévi-Strauss, avait fait un texte sur Proust, la traduction et Lévi-Strauss, hein, c'est-à-dire partant de la formule hein, « Tout grand livre est écrit dans une langue étrangère », disant, bon, c'est un petit peu analogique me semble-t-il, mais ça dit quelque chose, hein, de même que pour Proust, les livres s'entretraduisent, de même chez Lévi-Strauss, les mythes s'entretraduisent, et donc il n'y a pas de sens constitué à l'avance, mais une production, etc. Il y a un point aussi qui me semble assez évident et sur lequel on pourrait discuter, hein, c'est le rapport entre temporalité intime et historialité ou historicité. Ce que Lévi-Strauss retient aussi de Proust, et notamment de cette page, hein, c'est que si on prend au sérieux cette thèse sur la temporalité, hein, il n'y a plus d'histoire de l'art possible. C'est-à-dire que finalement, et c'est bien ce que fait Lévi-Strauss, hein, c'est-à-dire que les artistes brésiliens soustraits à la temporalité occidentale peuvent annoncer le mythe de Pygmalion. Il y a un côté Max Ernst chez Poussin. Il y a un côté Chabanon chez Boulez et un côté Boulez chez Rameau. Donc il n'y a plus d'histoire de l'art possible. Et d'ailleurs, hein, les pages les plus sévères de Regarder, Écouter, Lire hein, vont contre Panofsky. Hein, c'est-à-dire que l'idée d'une temporalité continuiste, hein, que cette fameuse querelle qui existe aujourd'hui entre Didier Berman et Ginsburg hein, sur les pathos formels, etc., pour Lévi-Strauss, hein, la question est pliée, hein, il n'y a pas de chronologie. C'est-à-dire qu'en réalité, et ça, il le dit bien hein, dans les textes que j'ai cités, hein, pour lui, c'est une thèse proustienne. C'est-à-dire que l'œuvre d'art, hein, elle est capable justement de transcender les époques. Et pour peu qu'on s'intéresse aux objets investis d'esprit, et ben, on s'aperçoit qu'il s'arrache à la temporalité.
D'accord. Alors on s'arrête en remerciant beaucoup Martin.